France Info.
Et à la une, l'enquête qui se poursuit en Espagne pour tenter de comprendre les causes de cet accident de train qui a coûté la vie à 40 personnes selon le dernier bilan. Dans l'actualité également, nous en parlions, le 49-3 qui sera enclenché aujourd'hui à l'Assemblée par le Premier ministre pour faire adopter son budget. Le président américain attendu au Forum économique de Davos, Emmanuel Macron également, et le Groenland est évidemment dans tous les esprits. Et puis des restrictions d'eau enfin levées dans les Pyrénées-Orientales après 2 ans de sécheresse. Le deuil national a commencé en Espagne. Il va durer 3 jours après cet incident entre 2 trains à grande vitesse en Andalousie qui a coûté la vie à 40 personnes. 2 trains qui se sont percutés dans la région de Cordoue. Le Premier ministre espagnol Pedro Sanchez promet la transparence sur les causes de ce drame. Une commission d'enquête sur les accidents ferroviaires a bien commencé son travail. Mais pour l'heure, Étienne Monin, rien ne permet d'expliquer le déraillement et le choc.
Assez rapidement, 2 éléments ont été écartés par le président de la Société espagnole des chemins de fer. Il n'y a pas eu d'excès de vitesse sur ce tronçon et sans doute pas d'erreur humaine. Les experts estiment donc qu'il faut se pencher sur l'état des roues des 3 derniers wagons qui ont déraillé et sur l'infrastructure. Les enquêteurs ont photographié un morceau de rail détaché à l'endroit de l'accident. Mais le ministre espagnol des Transports indique qu'il s'agit d'établir maintenant si ce rail est à l'origine du drame ou s'il a été au contraire dégradé par l'accident. Ce qui est sûr, c'est que ce tronçon de voie interroge. La ligne Madrid-Séville est la plus ancienne du réseau. L'opérateur avait injecté 700 millions d'euros pour moderniser et réparer les infrastructures. Le remplacement des aiguillages s'était terminé en mai dernier. Mais d'après la presse espagnole, au moins 7 incidents ont été signalés l'an passé, y compris au mois de décembre dans le secteur de l'accident, pour des problèmes notamment de signalisation et de caténaire.
Et les précisions d'Étienne Monin. Il est 5h02, il avait promis de ne pas l'utiliser, mais il le fera aujourd'hui. Sébastien Lecornu va donc bien recourir au 49-3 à partir d'aujourd'hui, cet outil constitutionnel qui peut être utile pour faire donc adopter le budget sans vote face à l'enlisement des débats au Parlement. En échange, évidemment, le Premier ministre s'expose et expose son gouvernement à des motions de censure de la France Insoumise et du Rassemblement National, Paul Barcelone.
C'est avec le cœur lourd et l'air grave que Sébastien Lecornu renonce à sa promesse originelle de ne pas passer en force.
Nous avons décidé, je dois le dire, à titre personnel, avec une certaine forme de regret et d'un peu d'amertume, mais d'engager la responsabilité du gouvernement sur la partie recette du projet de loi de finances.
Comme pour mieux signifier que lui prend donc ses responsabilités quand d'autres n'en sont pas capables. Face aux motions de censure du RN et de la France Insoumise, et malgré la colère du patronat, le Premier ministre vante un budget sérieux qui ne fait pas de folie fiscale. Il reconduit la surtaxe sur les bénéfices des grandes entreprises, promet une hausse de la prime d'activité sans accord secret avec le Parti Socialiste.
Non, il n'y a aucune garantie. Il n'y a pas de discussion et de réunions dans les arrière-boutiques avec qui que ce soit. Je prends sur moi ce texte de compromis, puisque plus personne ne veut complètement l'endosser, et donc je pense qu'on va arrêter de se donner en spectacle devant le monde entier pendant de nombreuses semaines et nous permettre de donner un budget à la nation.
Justement, quand Sébastien Lecornu va engager la responsabilité de son gouvernement tout à l'heure, Emmanuel Macron sera, lui, au Forum économique de Davos, en Suisse, et pourra se targuer d'avoir bientôt un budget en bonne et due forme.
Merci beaucoup Paul Barcelone, Davos et son forum économique qui en font donc la capitale économique du monde en ce moment. Vous le disiez, Paul Emmanuel Macron est sur place aujourd'hui et demain, ce sera au tour de Donald Trump de se rendre dans la station de ski suisse qui accueille l'événement et ses menaces contre le Groenland bouleversent évidemment tous les participants, Frédéric Saïs.
Devant une centaine de grands patrons venus du monde entier, Emmanuel Macron va tenter d'insuffler de l'optimisme. Question-réponse sur l'attractivité de la France. Mais hors caméra, les dirigeants européens vont multiplier les apartés sur le Groenland et l'optimisme va laisser la place à l'inquiétude. Le moment est vertigineux, confie un diplomate français. Comment faire face aux menaces de Donald Trump sans mettre en danger l'Alliance Atlantique? Instaurer le rapport de force, comme le propose la France, ou bien temporiser, comme le recommande l'Italie? En privé, les Européens tentent de se mettre d'accord en essayant de ne pas se contredire en public. Autre question à Davos, faut-il rencontrer rencontrer ou pas Donald Trump. Pas prévu à ce stade pour Emmanuel Macron. Hésitation chez Ursula von der Leyen, la présidente de la Commission. Rencontrer Trump, ça veut dire négocier. Or, sur le Groenland, il n'y a rien à négocier, plaide un haut fonctionnaire européen. La première ministre danoise, elle, a annulé sa venue à Davos, une manière d'afficher sa fermeté vis-à-vis des États-Unis. Nous voulons coopérer, dit-elle, et ce n'est pas nous qui cherchons le conflit.
Frédéric Saïs de la rédaction internationale de France Info. Une information judiciaire est désormais ouverte après la mort d'Elassem Diarra. Nous vous avons parlé sur France Info de cet homme de 35 ans qui est mort la semaine dernière au commissariat du 20e arrondissement de Paris. Après avoir été interpellé, il était, selon les forces de l'ordre, en train de rouler un joint. En clair, donc désormais, un juge d'instruction est saisi, Margot Steve, pour violence volontaire ayant entraîné la mort.
Oui, la famille de ce jeune Mauritanien le réclamait, persuadé qu'il est mort à cause de violences policières. Dans une vidéo filmée par un riverain, on voit un agent l'immobiliser au sol et lui asséner deux violents coups de poing. D'après l'avocat de la famille, on entend Elhassen Diarra crier « Vous m'étranglez ». Mais d'après les premières conclusions de l'autopsie, impossible à ce stade de savoir si c'est cela qui a pu entraîner le décès. Le corps présente une plaie profonde au niveau du front, mais aucune trace de lutte ou de défense. Aucun indice clair non plus sur une éventuelle strangulation. D'après le médecin légiste, le décès est dû à une défaillance cardiaque sans que l'on puisse pour l'instant en connaître la cause. Des examens complémentaires ont été ordonnés. En revanche, les caméras piétons des policiers ne pourront pas être exploitées. Ils assurent qu'elles étaient déchargées au moment de l'interpellation.
Et les précisions de Margot Steve du service police-justice de France Info. Malgré la signature officielle samedi dernier du traité de libre-échange avec les pays du Mercosur, des agriculteurs européens vont de nouveau se mobiliser, manifestation aujourd'hui à Strasbourg. Aux alentours de 600 à 700 tracteurs sont espérés aux abords du Parlement européen par la FNSEA, qui est à l'origine en France de cet appel à la mobilisation aux côtés des jeunes agriculteurs. Les données personnelles de 100 000 jeunes dérobées en région Bourgogne-Franche-Comté. C'est le site de la carte Avantage Jeunes de la région, destinée aux moins de 30 ans, qui a été piratée il y a une dizaine de jours. Les noms, numéros de téléphone, adresses électroniques et postales ont été subtilisés. C'est la fin du calvaire dans les Pyrénées-Orientales. Après 3 ans d'une sécheresse historique, le préfet a signé hier l'arrêté qui allège enfin une grande partie des restrictions. Les cours d'eau sont bien remplis après 2 épisodes de pluie intense, l'un pendant les fêtes et l'autre ces derniers jours. Christine Peña nous en parlait. Et donc l'allègement de ces restrictions, c'est une très très bonne nouvelle, en particulier pour les agriculteurs. Denis Bassery est viticulteur à Rivesaltes et c'est le président de la SAFER, l'organisme qui gère le foncier agricole dans les Pyrénées-Orientales.
C'est un gros soulagement. Alors, les nappes sont encore, dans certains endroits, en état de crise. Mais si ça continue comme ça, ça ne pourra que s'améliorer. Je suis comme Saint-Pierre. Moi, je crois que ce que je vois, quand on en sera sorti complètement, là, à ce moment-là, ce sera encore autre chose. Pour nous, ça représente, on va dire, allez, une libération. Une libération de l'esprit, parce que quand même, quand on est dans ces situations, on ne dormait pas tranquille tous les jours. D'ailleurs, on ne dormait pas tranquille du tout, quoi. On a vécu des situations exceptionnelles. On sait qu'on va les revivre. Ce qu'il faut maintenant, c'est que, avec le temps de répit qu'on a, peut-être 6 mois, 1 an, 1 an et demi, il faut qu'on mette rapidement en place des solutions durables.
Denis Bassery, le président de la SAFER dans les Pyrénées-Orientales. Et puis encore un exploit pour Wemby. Victor Wembanyama, le basketteur français, sélectionné à nouveau pour le All-Star Game cette année. Ce sera le 15 février prochain, une soirée de gala qui rassemble les meilleurs joueurs de la Ligue américaine. Et c'est exceptionnel, il sera titulaire et non pas remplaçant comme l'an dernier. Pour bien comprendre à quel point c'est fort, c'est que même Tony Parker n'a jamais eu droit à cet honneur. Victor Wembanyama, donc le premier Français titulaire pour le All-Star Game de basket aux États-Unis. Christine Peña, c'est l'heure de votre météo à 5h09 et c'est le retour des gelées sur le Nord-Est.
Mais oui, ça nous réveille. Hein. Effectivement, le froid, depuis hier, hein, on a ce retour de gelée. Alors, il fait moins 1 à Nancy. C'est assez contrasté avec le reste du pays, finalement, avec 7 à Paris, on est largement en positif. 8 du côté de Rouen, comme à Toulouse, comme à Nîmes. Et le plus doux, devinez où ?
Est-ce que ça serait pas chez moi ?
Ah bah oui, c'est
est-ce
à Toulon.
Est-ce que ce serait pas à Toulon ?
Et à Toutou, à Lolon. 14 degrés à Toutou ?
C'est à Lolon. À Toutou, à Lolon,
bah ah oui, c'est vrai, Bayonne. On pourrait le faire. Mais ça marche moins bien.
Ça marche moins bien.
Bon, 14 degrés ce matin à Toulon. Hein.
Eh bien, très bien. Je pars tout de suite. Merci beaucoup, Christine Peña. 5h09.